le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge avec vous. Lors de sa venue à New York dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, le Premier ministre de la Guinée, Amadou Ouriba, a accordé un entretien à VOA Afrique pour aborder diverses questions. Il s'est notamment exprimé sur le procès historique du 28 septembre qui a débouché cette année 2024 sur la condamnation à de longues peines de prison de plusieurs militaires et dirigeants des forces de sécurité, y compris Moussa Dadis Camara qui a dirigé la Guinée de 2008 à 2010. En septembre 2009, une répression organisée par la junte avait fait plus de 150 morts lors d'un rassemblement dans un stade à Conakry et les jours suivants. Plus d'une centaine de femmes avaient été violées, certaines séquestrées, tandis que d'autres ont disparu. Lors du procès, des réparations ont été accordées aux victimes et à leurs familles. J'ai demandé au Premier ministre si le gouvernement guinéen peut garantir que ces mesures vont être effectives rapidement, sachant que ces violences ont été perpétrées contre ces femmes il y a maintenant 15 ans. Monsieur Ouriba a également répondu à des questions sur la parité et la place des femmes en politique, ainsi que la création d'emplois pour les jeunes à travers de grands projets.
Pour les femmes victimes de cette violence barbare en 2009, d'ores et déjà, des fonds alloués à la réparation et à la compensation sont déjà en train d'être progressivement abondés pour nous permettre de satisfaire cette légitime revendication des femmes, principalement qui, pendant plus de 15 ans, ont été complètement déstructurées. Et donc, nous devons, le plus rapidement possible, avant que ce ne soit trop tard, pour une majorité d'entre elles, contribuer à cette forme de compensation et de réparation. Au-delà de tout ça, la politique actuelle du gouvernement et du président de la République de Jean Mamadi Doumbouya, c'est la dynamique de réconciliation pour que celle-ci soit effective. Nous ne pouvons pas asseoir une politique économique stabilisée, un développement harmonieux dans une logique de longue durée si nous ne parviendrons pas à asseoir les bases d'une véritable société rassemblée, réconciliée avec elle-même et réconciliée avec l'État. C'est un impératif stratégique majeur. Ce n'est pas un élément que nous mettons comme étant un aspect périphérique, mais c'est l'élément central parce que la cohésion du pays, la cohésion de la société, la stabilité actuelle et future dépend fondamentalement de la capacité de réconcilier, de rassembler, de faire émerger une même idée de l'intérêt national. Si nous parvenons à ça, il va de soi que les générations présentes et futures sauront permettre à la Guinée d'être une véritable locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest.
Monsieur Ouriba, votre gouvernement comporte environ 18% de femmes, ce qui ne satisfait pas les groupes de militantes et politiciennes qui vous ont d'ailleurs exposé cette question. Elles ont aussi été déçues dans le cadre de nominations au sein de cabinets ou administrations. En revanche, elles sont quasiment 30% au CNT. Comment peut-on expliquer ce faible taux de femmes au gouvernement? Est-ce que vous avez engagé des mesures particulières pour assurer leur juste représentativité au sein des institutions de l'État?
Bon, on va réparer ça. C'est des questions de, disons, de casting de dernière minute, mais l'objectif était d'avoir au moins 30% de représentation féminine au sein du gouvernement. Mais bon, c'est une parenthèse. Dans quelque temps, les choses vont revenir à la normale et nous voulons aller plus. Et au-delà de la question de la représentation au gouvernement, c'est, disons, faire émerger une élite féminine aussi compétitive que les hommes. D'où, disons, des investissements dans le cadre de la formation, du développement du capital humain, où on insiste pour que les femmes et les filles puissent bénéficier, des fois, d'une certaine discrimination positive. Step by step, on parviendra avec le temps à faire en sorte que les femmes soient représentées valablement, non pas par des aspects de complaisance, mais parce qu'elles sont compétentes, parce qu'elles sont fortes, parce qu'elles sont en mesure de faire ce que d'autres hommes peuvent faire. Et dans ce cas de figure, nous avons dans l'équipe gouvernementale des femmes fortes et j'espère que dans les temps à venir, la représentation féminine va s'élargir au niveau de tous les secteurs de la société administrative du territoire et bien entendu aussi au niveau du secteur privé. Donc c'est une dynamique globale. La question de la femme, ce n'est pas simplement les questions de poste, c'est des questions de centrer les préoccupations essentielles de politique publique autour des problématiques que les femmes incarnent. Parce que en allant dans cette direction, on répondra effectivement à la problématique de la société globale.
L'on sait que la Guinée a la première réserve mondiale de bauxite, le minerai de fer qui est très prometteur, l'hydroélectrique, il y a l'or, le diamant, il y a des réserves qui ne sont pas encore exploitées et de nombreux Guinéens vivent dans l'extrême pauvreté. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un travail, pouvoir scolariser leurs enfants. Alors est-ce que l'on peut s'assurer à travers tous ces projets, toutes ces promesses, que la population va, elle, retrouver ce qui lui est dû ?
Je dois dire que c'est un impératif. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'il y a des appels d'offres d'emploi, les appels d'offres sont lancés sur le plan international à l'attention de tous les Guinéens, quel que soit l'endroit où ils peuvent se trouver. Donc, c'est pour dire que nous allons intégrer cette donnée qui fait de la diaspora guinéenne un atout majeur qui nous permet, disons, d'avoir les compétences, d'avoir les ressources humaines, d'avoir le know-how pour que cela puisse être bénéfique à l'économie nationale. Et c'est le message que j'ai délivré à mes compatriotes ici à New York pour leur dire qu'ils utilisent leurs atouts, qu'ils utilisent leurs forces pour contribuer à la construction de la Guinée. Et je dois dire que par rapport aux investissements, nous ne voulons pas être dans une économie de rente. Nous voulons que cette économie soit davantage diversifiée. C'est la raison pour laquelle les projections d'ici Mandou 2040 vont dans le cadre du développement du secteur privé. Et le secteur privé, c'est l'un des atouts majeurs permettant, disons, le décollage économique et puis une croissance durable, effective et des emplois en abondance pour satisfaire à l'attente de millions de jeunes qui, chaque année, se déversent au niveau du marché de l'emploi. Et ça, nous sommes en train de le faire. La démarche prend du temps, mais la volonté demeure et les objectifs sont essentiels. Nous ne voulons pas être un pays uniquement, exclusivement tourné sur les mines. Les mines actuelles, la transformation que nous sommes en train de rechercher pour avoir plus de valeur ajoutée permettra d'utiliser les compétences. Nous allons, dans le cadre du développement du capital humain, lancer des appels pour que les jeunes soient formés. Parce que sans la formation, sans ces ressources, nous ne serons pas en capacité d'être comme les dragons asiatiques. Or, notre objectif, c'est d'être comme les dragons asiatiques dans la décennie à venir. Bien entendu, comme vous le savez, les changements ne sont pas aussi faciles parce que entre l'ancien et le nouveau, il y aura toujours des chocs. Mais le gouvernement guinéen va accompagner ce processus avec tact, avec intelligence, avec détermination, parce que c'est cela qui va contribuer à faire que nous soyons à rendez-vous dans la décennie prochaine.
Monsieur le Premier ministre de la Guinée, Amadou Ouriba, merci beaucoup pour cet entretien que vous avez accordé à VOA Afrique.
C'est moi qui vous remercie.
C'était un extrait de l'entretien avec le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba lors de sa visite à New York dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com pour l'entretien vidéo intégral dans lequel il aborde diverses questions comme la vision de la Guinée au plan économique, la réintégration de la Guinée dans l'OIF, le référendum constitutionnel, le calendrier électoral, l'interdiction de manifester, la presse, le déroulement de la transition militaire qui entame sa 4e année depuis le coup d'État de septembre 2021, entre autres questions.
Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Selon un rapport onusien, dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024, 268 des 348 femmes détenues à la prison de Makala en République démocratique du Congo ont été victimes de viols et autres violences sexuelles lors d'une tentative d'évasion meurtrière. 17 des survivantes avaient moins de 19 ans. Dans les 72 heures suivant les attaques, les survivantes ont reçu une contraception d'urgence et la prophylaxie post-exposition au VIH, mais elles n'ont reçu de soutien psychologique adéquat qu'à partir du 11 septembre, soit 10 jours plus tard selon Human Rights Watch. De telles violences contre les femmes détenues se sont également produites en 2020 à Lubumbashi. Les ONG de défense des droits humains ont dénoncé l'inaction des autorités contre ces viols de masse de femmes détenues et ont appelé à des mesures concrètes pour prévenir de telles violences. Chantal Yelou, conseillère spéciale du président Félix Tshisekedi, en charge de la jeunesse, des violences basées sur le genre et de la traite des personnes, a expliqué à VOA Afrique le cours de la justice dans cette affaire.
Pour le moment, on passe dans l'étape des procès. Il y a plusieurs procès qui sont en train de passer. Les femmes sont en train de dénoncer ce crime ignoble. Elles sont en train de parler. Il y a des femmes qui se sont fait violer par 10 hommes. Le président de la République, il est extrêmement concerné par cette situation. En 2021, il avait prononcé la tolérance zéro au niveau national. Et on a plusieurs lois qui ont été mises en place. Le viol est un crime punissable et répréhensible par rapport aux lois de la République démocratique du Congo. Et ces gens-là, les bourreaux, ils ont profité de la vulnérabilité de ces femmes qui étaient emprisonnées et qui étaient déjà en position de faiblesse pour pouvoir venir et commettre ce crime-là, commencer à les violer. C'est ce qui s'est vraiment passé. Mais de l'autre côté, nous avons eu la première ministre qui a rendu visite avec le ministre de la Santé. Alors on sait déjà qu'il y a une prise en charge côté holistique qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire la prise en charge de santé, il y a la prise en charge juridique parce qu'elles sont soutenues par les ADEL, une ONG, et ils sont aussi soutenus par différentes associations, sociétés civiles qui prônent la cause de la femme. Et il y a aussi, ce que nous, on est en train de vouloir suivre, si elles ont eu la prise en charge psychologique, c'est vraiment important. Prise en charge de santé, on sait que ça a été fait. La prise en charge juridique est en train de se mettre en place, mais le côté psychologique, c'est ça qui nous concerne. Mais on voit de plus en plus le mouvement des femmes congolaises partout dans le monde, que ce soit de la diaspora, que ce soit dans les provinces, que ce soit ici à Kinshasa, elles sont toutes concernées. Je pense qu'il y aura une manifestation où elles vont amener des denrées non périssables aux victimes et aux femmes qui sont dans la prison. Il y a des associations comme les Femmes Solidaires, il y a le mouvement de lobbying des femmes qui s'y mêlent, le G100 qui est en train de se mettre. Toutes les femmes se mettent ensemble pour pouvoir apporter leur pierre. Mais les bourreaux doivent être condamnés. Ils vont être condamnés à 20 ans au minimum de prison parce que la loi le dit.
Chantal Yelou, on sait qu'en septembre 2020, une émeute à la prison de Kasapa Lubumbashi avait provoqué un incendie dans la section des femmes qui avait forcé les prisonnières à rester dans la cour pendant 3 jours sans aucune protection de l'administration pénitentiaire. Et durant ces 3 jours, des hommes détenus ont violé des dizaines de prisonnières, dont une adolescente. Ça date de 2020. Il y en a eu d'autres après, ou du moins au moins une fois. Et la question qu'on se pose ici, c'est pourquoi les femmes sont-elles encore dans des prisons communes avec des hommes et notamment des enfants.
Oui, ça c'est vraiment un grand problème qu'il y a ici, mais je pense que c'est dans certains pays africains aussi, où il y a un grand nombre de prisonniers qui se retrouvent dans les prisons centrales, comme on dit. Et dans chaque ville, il y a une prison qui est une prison centrale où on mélange et les hommes et les femmes et les enfants. Mais le gouvernement est en train de mettre en place, de travailler, je pense que c'était déjà avec le gouvernement passé, un programme pour pouvoir faire sortir les femmes de prison où il y a les femmes et les hommes et mettre en place des prisons pour femmes. Et là, on est en train de travailler là-dessus très, très fort. C'est dommage que tous ces incidents sont arrivés, mais ce qui est plus important, c'est de pouvoir vite travailler dans le short term. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sécuriser les femmes pour le moment, toutes les femmes qui sont dans les prisons centrales, les sécuriser, qu'elles soient protégées par un service de sécurité qui est composé des femmes, s'il vous plaît, parce qu'elles vont mieux comprendre la douleur des femmes, la situation de la femme. Et il faut aussi renforcer la capacité de ces surveillants qui sont là-bas et de mettre surtout un système de caméras ou de vidéos pour qu'on voit exactement qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que ces femmes, elles se sont fait violer de 1h du matin jusqu'à 6h du matin sans aucune surveillance.
Chantal Yelou, vous êtes également donc experte en ce qui concerne la traite des personnes et l'on sait malheureusement que dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a encore cette violence armée et l'on sait que de nombreuses femmes sont victimes de violences, des enfants également. On a toujours le problème des enfants soldats qui sont exploités ici là par les groupes armés, des problèmes d'exploitation sexuelle, etc. Où en êtes-vous aujourd'hui et quel mécanisme de protection appliquez-vous? Ou en tout cas, pouvez-vous appliquer dans cette région?
Premièrement, on a la stratégie nationale sur la violence basée sur le genre depuis qui a été révisée en 2020. Et en plus, nous avons la loi de 2006 sur la violence faite à la femme qui a été modifiée en 2022 où on a ajouté plusieurs aspects sur la violence faite à la femme. De l'autre côté, en RDC, nous, on a le numéro vert qui est le 122. Pour tout ce qui est violence faite à la femme, les femmes doivent appeler et dénoncer. Le problème qu'on a, c'est dans la dénonciation, parce qu'ils ont peur de stigmates. Les femmes doivent appeler, elles dénoncent directement. Ils ont une prise en charge gratuite de santé psychologique et une prise en charge juridique. On a aussi un numéro vert pour tout ce qui est traite des personnes, qui est la 129. Où ils dénoncent aussi et directement on les prend en charge. Et avec la traite de personnes, nous travaillons sur 4 P. Le premier P qui est la prévention. On fait la sensibilisation pour tout ce qui est traite des personnes et surtout dans l'est du pays où on se retrouve beaucoup avec tout ce qui est trafic sexuel des femmes. Et aussi nous travaillons avec tout ce qui est poursuite des bourreaux. On travaille avec la police, avec différents services de sécurité, l'ANER et tout ça et tout. Et on a aussi la protection des victimes, où on est au courant de ce qui se passe, on les prend en charge, on les place dans un endroit sécuritaire et on leur donne des kits pour pouvoir s'en sortir après. Alors il faut les former sur la traite des personnes. Et pour les jeunes qui ont moins de 18 ans, on fait tout pour qu'ils puissent aller à l'école. Mais nous avons aussi le programme de désarmement PTDRS de la présidence et du gouvernement où on va chercher les enfants qui sont pris par les milices. Il y a aussi le GTTC. Nous avons plusieurs programmes pour pouvoir sortir les enfants dans des groupes armés. Et on leur donne des kits et on les forme, on les replace dans leur famille.
C'était Chantal Yelou, conseillère spéciale du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en charge de la jeunesse, des violences basées sur le genre et de la traite des personnes. L'insécurité dans certaines régions et des pays limitrophes a généré d'importants mouvements de population à l'intérieur du pays et en provenance de l'extérieur. Ainsi, des milliers de familles disloquées et livrées à elles-mêmes viennent gonfler le taux de pauvreté et de précarité d'une grande majorité de la population. Dans ces conditions d'insécurité généralisée, les personnes vulnérables sont les plus exposées à la violence. Maïmouna Youssoufa est chargée de la prévention et de la réponse des violences basées sur le genre dans le cadre d'un programme national de protection sociale au Cameroun. Elle intervient auprès des ménages pauvres et de personnes réfugiées et déplacées. On l'écoute.
À notre niveau, nous faisons beaucoup de sensibilisation sur les causes et les conséquences des violences faites aux femmes. C'est vrai que ça ne suffit pas. Donc nous avons à notre niveau un formidable réseau de femmes, d'organisations locales de femmes. Nous sensibilisons également les hommes parce qu'ils sont les principaux auteurs de ces violences-là, les violences des partenaires intimes principalement. Donc nous travaillons avec eux pour changer la masculinité, le nouveau concept de masculinité positive sur les réseaux sociaux dont nous avons commencé à l'implémenter il y a longtemps.
Vous travaillez avec les ménages pauvres au niveau de l'indépendance financière pour éviter en quelque sorte les violences basées sur le genre. Qu'est-ce que vous auriez à dire dans le milieu dans lequel vous travaillez?
Principalement, nous travaillons à renforcer les transferts monétaires sociaux aux ménages les plus vulnérables du pays. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous choisissons la femme comme personne de référence pour recevoir de l'argent pour l'usage des besoins du ménage. Cette situation provoque beaucoup. En pensant à compter l'indépendance financière à la femme, il se crée un problème. Donc, il y a un déséquilibre des rôles de genre qui s'installe parce que nous savons que dans nos communautés, les hommes sont les principaux pourvoyeurs. Donc, lorsque ce pouvoir économique est donné à la femme, l'homme n'est pas préparé à voir le changement de statut social, le changement de pouvoir qui intervient dans le ménage. Généralement, il y a un mécanisme de réaction négative qui se manifeste par les violences des partenaires intimes. Donc, nous enregistrons pas mal de cas de violences physiques, de violences psychologiques ainsi que de dénigrement de ressources. Il y a des hommes qui s'accaparent des transferts reçus par les femmes parce qu'ils ont peur de la voir se libérer de son joug. Donc, à ce niveau, nous faisons beaucoup de sensibilisation sur la budgétisation partagée pour que les ressources qui sont introduites au sein du ménage soient l'objet de discussions, de dialogues consensuels entre les deux parties, afin que son utilisation soit faite au service des besoins du ménage.
Maïmouna Youssoufa, on parle beaucoup d'impunité d'une manière générale hein, sur ce type de violence dans la plupart des pays. Hein. Est-ce que vous avez dans votre programme des dispositions qui vous permettent de faire un petit peu le pont avec le gouvernement et de vous assurer qu'il n'y ait pas d'impunité pour les auteurs de violences basées sur le genre ?
Oui, effectivement, nous avons un circuit de référencement qui intègre les services sociaux, tels que le service de l'action sociale du ministère des Affaires sociales, le service pour la protection et la promotion des droits des femmes du MINPROF, et également les gendarmeries et les commissariats qui existent dans les localités où nous intervenons. Donc, nous avons des points focaux dans ces structures vers lesquelles nous orientons les survivantes. Lorsqu'elles désirent voir leurs droits respectés, on les envoie vers le commissariat où elles peuvent porter plainte. Donc, nous travaillons vraiment en synergie avec les institutions de l'État pour essayer d'éradiquer ces violences de genre, quoique ce n'est pas suffisant parce que comme la présidente intervenante a dit, les femmes ne dénoncent pas toujours leur bourreau malheureusement.
Au niveau de la formation des forces de l'ordre pour éviter les violences basées sur le genre,
là-dedans, il y a des formations qui sont spécifiques à ces hommes en tenue que nous menons et nous les sensibilisons également sur le fait de prendre en considération le pouvoir différentiel qui existe entre eux et les populations pour ne pas commettre les violences basées sur le genre parce que leur rôle c'est de protéger les populations et non d'abuser d'eux.
C'était Maïmouna Youssoufa, chargée de la prévention et de la réponse des violences basées sur le genre dans le cadre d'un programme national de protection sociale au Cameroun. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.